Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2019 et vous écoutez le Café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis toujours et encore accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 14 du Café de l'e-commerce. Vous n'avez pas le temps d'aller sur les sites de news, d'assister à des webinaires pour vous former, ni de lire des livres liés à l'industrie du e-commerce et du digital marketing. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille commerce différemment dans vos oreilles.
Si vous aimez ce que vous allez écouter, laissez vos commentaires ainsi que 5 étoiles si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast.
N'hésitez pas également à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn pour ne rien rater de l'actualité et des coulisses du podcast. Tous les liens sont dans la description de l'épisode et sur notre site internet.
Nous sommes un podcast indépendant et nous ne sommes affiliés à aucune société privée. Notre avis n'engage que nous.
Si vous souhaitez assister à l'enregistrement du podcast et échanger avec nous, contactez-nous. On enregistre habituellement en début de semaine dans le centre de Paris.
Au menu de ce 14e numéro du Café de l'e-commerce, nos rubriques habituelles, les news en France, l'actu internationale, les levées de fonds. Il n'y aura pas d'Amazon cette semaine, on vous prépare un focus spécial Zalando. Les news simples et funky, le Café du cœur et une spéciale guest qui est Thibaut, notre ami du podcast Le Super Daily, le podcast 100% réseaux sociaux.
Nous enregistrons ce numéro au WeWork Cœur Marié à Paris.
Adrien,
Laetitia, prêt, synchronisation des montres.
Salut à tous, merci de m'accueillir dans le Café de l'e-commerce.
Eh ben, on est ravis de t'accueillir. Alors, je vais juste reprendre un petit peu, redonner un peu de contexte. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Thibaut, qui est le directeur enthousiaste de l'agence Supernatif, et je reprends sa signature d'email. Supernatif, c'est l'agence experte en social media qui réalise et produit tous les jours le Super Daily, un super podcast dédié aux social media. Et c'est assez naturellement que nous avons choisi d'inviter Thibaut via Instagram, parce que j'écoutais ses podcasts et je trouvais l'idée amusante, sachant qu'Adrien et moi sommes spécialisés digital marketing et e-commerce, il nous manquait parfois une petite expertise social media.
Il y a quelques semaines, Laetitia m'a partagé le lien du podcast. On s'est vraiment beaucoup retrouvé sur le ton, sur le format, sur le style, sur l'intimité. Je leur ai dit waouh, c'est exactement ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on est en train de construire dans l'e-commerce. Contacte-les tout de suite. Est-ce que tu les connais ? Elle me dit non, je les connais pas, mais je suis auditrice. Donc elle dit écoute, contacte-les, voyons si on peut faire quelque chose. Et donc on est très content, Thibaut, de t'accueillir. Peut-être que tu veux donner 2-3 mots sur toi et sur le podcast.
Oui, encore merci de m'accueillir. C'est très sympa de passer un petit peu de temps et on va parler ensemble e-commerce. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait assez peu souvent finalement dans notre podcast Le Super Daily. C'est un podcast social media puisque, comme tu l'as très bien dit Laetitia, moi je suis directeur d'une agence qui s'appelle Supernatif. On est à Lyon et on est une agence spécialisée en social media. Donc finalement, on est amené parfois à intervenir sur des projets qui impliquent du e-commerce, mais ce n'est pas notre cœur de sujet. Et tous les matins, eh ben effectivement, on a un podcast qui s'appelle Le Super Daily, dans lequel on décrypte l'actualité des réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai mes deux collègues avec qui je fais ça, qui ne sont pas là aujourd'hui. Ils s'excusent, ils ne pouvaient pas être là pour le Café de l'e-commerce. C'est Adjan et Camille que j'embrasse. Et voilà, et tous les matins, on est à l'antenne pour 20 minutes de décryptage d'actu social media.
On mettra tous les liens du podcast dans les notes et sur notre site. On est vraiment très content de t'accueillir et puis on voit énormément de complémentarité. Les auditeurs le voient chaque semaine. On parle des réseaux sociaux et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas mal. Enfin, on évolue dans un domaine qui est très complexe et on a une vue assez en silo. On parle de multicanal, mais nous-mêmes dans nos expertises, on a de la difficulté d'avoir cette vue 360. Donc, on est ravis de pouvoir échanger ensemble.
Super, bah Thibaut, tu interviens quand tu veux et je passe tout de suite la parole à Adrien qui a assisté à un événement la semaine dernière, les Big Boss.
Oui Laetitia, effectivement, donc tu connais cet événement, c'est un événement qui est organisé par...
Hervé Bloch.
C'est ça, et c'est quoi le nom de sa structure ? Rappelle-moi, c'est les Big Boss tout simplement, je crois.
Les Big Boss, ouais, il y a un autre nom sur le nom de...
Ok, le principe de cet événement, c'est un dîner dans lequel tu as 15 prestataires qui rencontrent 15 dirigeants de marque, et à la manière d'un speed dating, tu vas avoir 3 minutes pour pitcher ta solution, et tu passes toutes les...
Alors chaque dîner a une thématique. Toi, tu étais sur quelle thématique ?
Là, c'était la thématique e-commerce. Je représentais la société pour laquelle je travaille. Et donc, ça commence d'abord par un format donc 15 fois 3 minutes avec les responsables. Donc, au début, tu as plutôt le rythme. Mais au bout de 10 fois, tu dois répéter un peu la même chose, mais en même temps poser des questions pour essayer de comprendre le contexte. C'est vrai que c'est un exercice dans lequel c'est assez compliqué, surtout que tu n'as pas le temps de prendre de notes. Donc, il faut tout retenir ou il faut essayer de retenir les choses. À la fin du 15e, tu es content d'avoir terminé. Tu sens aussi qu'au début, c'est bonjour, comment ça va, les enfants, la famille. La fin, tu vas droit au but et tu essaies d'aller vraiment droit au but. Et d'ailleurs, j'ai une petite technique, c'est qu'entre chaque meeting, enfin, entre chaque one-to-one, j'enregistrerai des notes audio. Et c'est beaucoup plus rapide de faire des notes audio que d'écrire. Donc, je disais en 5-10 secondes ce qui se passait, le contexte avec la personne avec qui j'ai rencontré. À la fin de ces 15 one-to-one, tu as ensuite le dîner. Donc, pareil, tu es disposé. Donc, il y a des noms sur les places.
Donc, tu ne choisis pas.
Et ils font en sorte de t'entourer des personnes qui pourraient être intéressantes pour toi. Et à la fin de l'entrée plat, tu as encore un changement pour le dessert où tout le monde s'échange un petit peu de place. Et donc, au final, ça dure 3-4 heures, ça commence à 19h je crois et ça finit vers 23h et écoute, c'était très bien organisé, donc c'était vraiment pas mal. Les prestataires, que j'ai pu rencontrer pas mal de prestataires, que certains que je connaissais, d'autres que je connaissais pas, même des agences, et les marques qui étaient présentes étaient
des
belles marques
essentiellement issues de fashion.
Ouais, non, il y avait de tout. À partir du moment où tu as un panier sur ton site internet, tu peux y assister. D'accord. C'était intéressant, donc assez intéressant, et puis c'est toujours amusant de voir que ce format il existe depuis quelques années, c'est vraiment popularisé
et ça séduit toujours autant.
Ouais, et puis ça séduit. Et puis pourquoi ? Parce que soit tu vas pendant 2 jours faire des salons, des conférences, ça mobilise des équipes, ça a un coût, ou soit en 2 heures, tu vas droit au but et tu qualifies ou pas si y a un intérêt. Je pense que c'est particulièrement intéressant pour les sociétés qui ne sont pas nécessairement très connues sur le marché. Mmh. Et, parce que si t'as un grand nom sur le marché, tout le monde sait ce que tu fais et on sait déjà où te trouver. Donc là, quand tu lances une société ou quand tu as une taille intermédiaire ou qui n'est pas très connue, c'est vraiment pas mal.
Les news à retenir de la semaine. Adrien, qu'est-ce que tu as retenu, toi ?
Bah moi, j'avais une news que je voulais partager. C'est la Poste autrichienne qui a récupéré une amende. Je ne sais pas si on dit récupérer une amende. En tout cas, qui a écopé d'une amende de 18 millions d'euros pour avoir vendu des données clients.
Donc, tu es en train de me dire qu'un organisme public, genre, je ne sais pas, ça se trouve, c'est privatisé en Autriche. En tout cas, a revendu des données clients.
Alors, tu sais, après, les titres des news sont toujours dans le sensationnalisme. Donc, tu vois ça, j'ai voulu creuser un petit peu. Il y a déjà une chose qui m'a marqué, c'est que ça a été très peu couvert. En essayant de remonter à la source, essayer de comprendre ce qui a été fait, ça a été dur de vraiment avoir toutes les infos. C'est quelque chose qui est en cours. La Poste autrichienne a fait appel de cette décision. Et pour comprendre un petit peu ça, alors tu l'as dire, ils sont vraiment en sanglots parce que dans la société, enfin que ça soit connu, enfin que ça soit reconnu en tout cas, et que ça soit sur le marché avec tous les RGPD, ça a vraiment fait, enfin il y a un gros risque derrière. Mm-hmm. Donc pourquoi, enfin qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ben, il semblerait ils ont eu les données clients, ils avaient 2,2 millions de données clients parce qu'ils leur adressent des informations, ils collectent des informations. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de prédire les tendances politiques en faisant des extrapolations. Donc en récupérant certaines informations, en y appliquant certaines règles, peut-être tel quartier, c'est un peu plus... ils sont peut-être un peu plus de droite, ou je ne sais pas trop comment
fonctionne. C'est un espèce de Cambridge Analytica.
Bah, ça a été tout vite comparé. Ce qui est terrible, c'est que les données qu'ils avaient récupérées, c'était des données tout à fait légales. Ils ont extrapolé, mais à la limite, si ça reste dans leur système, je ne sais même pas si c'est interdit. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ensuite, ils l'ont vendu à des sociétés tierces parce qu'ils ont dit bah, « j'ai enrichi ma donnée ». On parle tout le temps d'enrichissement de données. Oui. En fait, sur le papier, tu lis ça, tu pourrais te dire bah, « n'importe quelle société fait déjà ça ». Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et là, la limite, en l'occurrence, c'est quand on touche à la politique, vendre à qui est-ce qu'ils le vendent et monétiser ces données-là. Donc c'est quelque chose qui, je pense, a aussi est en train de montrer aussi avec le RGPD que tout le monde est en train de prendre ça très au sérieux. Mmh. Et que ça arrive jusqu'à nous et qu'on voit que de plus en plus de sociétés sont sensibles à ces choses-là. Je pense que ça va dans la bonne direction. Et je suis aussi convaincu d'une chose, c'est qu'il y a quelques années, on en aurait jamais parlé
exactement.
Et on en aurait même pas entendu parler. Et puis on n'aurait pas fait le relais. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour la protection du consommateur.
Alors, à mon tour de discuter de ma news. Alors, la semaine dernière, dans l'épisode 13 du Café de l'e-commerce, je vous parlais des Single Days. Les Single Days qui célèbrent le célibat en Chine. Et ça débarque aussi en France. Alors en France, on ne va pas célébrer le célibat. En revanche, ça va être une super fête marketing, donc inspirée par le groupe Alibaba. Et j'avais fait mention de Carrefour la semaine dernière. Alors je vais vous donner de plus amples détails. Carrefour, sur son site e-commerce carrefour.fr, a lancé un système de récupération de coupons, de codes promo, pour 11 111 clients Carrefour. Donc il faut être porteur de la carte de fidélité Carrefour pour pouvoir s'inscrire et recevoir des coupons de réduction allant jusqu'à 11% de réduction. Donc on joue toujours sur le chiffre 1. Et ces bons de réduction peuvent être utilisés en ligne, mais aussi en magasin. Bon, alors moi, j'ai tenté l'expérience client parce que vous savez que j'aime bien toujours tester ce dont je parle. Bah, c'est terminé, en fait. Hein, on peut plus. Ça y est, on a atteint les 11 111 clients Carrefour. Adrien, la semaine dernière, me demandait si ça allait fonctionner et ce Single Day en France. Bah, j'ai regardé un peu et il y a plein de marques, hein, qui se lancent. On a Boulanger, bon, AliExpress, bien sûr, qui dépend du groupe Alibaba. La Fnac, Sephora. J'ai moi-même reçu plein d'emailing me demandant de préparer déjà mon panier pour le Single Day. Apple, Free, Cdiscount, Marionneau. Donc, au lieu de célébrer la victoire de la France sur l'Allemagne, on va plutôt faire des emplettes.
Est-ce que toi, Thibaut, tu le vois que c'est quelque chose qui est en train de prendre, parce que tout ça, ça vient aussi de l'acquisition. Donc,
exactement,
il va falloir communiquer sur les réseaux sociaux. Est-ce que t'as l'impression que qu'il y a une montée, qu'on commence à en voir de plus en plus de campagnes sur les réseaux sociaux?
Alors, c'est des campagnes autour du Singles Day, j'en ai pas vu. Et tu vois, je regardais en même temps que Laetitia, tu parlais, je regardais un petit peu ce que faisait Carrefour sur ses réseaux sociaux. Et j'ai rien vu du tout à ce sujet. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va s'installer et qu'on verra peut-être l'année prochaine. Ce qui est intéressant, alors, hormis, je pense, l'angle de l'acquisition, hein, pur et dur, et l'opportunité d'acquisition, ce qui est intéressant dans ces opérations, c'est qu'en général, c'est du pain béni pour créer du contenu en ligne. On le sait, des grosses marques comme Carrefour et compagnie, elles ont besoin aussi d'activation et d'activation sociale. Et ça, typiquement, c'est ce que font très bien les Chinois autour de cette opération. C'est que c'est un bel alibi aussi de communication. Donc, à voir si l'année prochaine, c'est quelque chose qu'on voit davantage en ligne.
On passe à la rubrique levée de fonds et rachat.
Il y avait une chose que je voulais partager. Alors, c'est société Coveo, que je ne connaissais pas, qui a levé 172 millions de dollars. Sa valorisation aujourd'hui, elle est à plus d'un milliard de dollars. Et ce qu'il propose, c'est un moteur de personnalisation et un moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle. Alors, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est qu'on avait parlé d'Algolia il y a une ou deux semaines. Donc, on est sur un secteur similaire. J'aurais jamais imaginé que les moteurs de recherche qu'on connaît depuis 20 ans maintenant, on puisse y avoir de l'innovation ou une nouvelle vague, en tout cas de solutions. Mais en réfléchissant une seconde, c'est exactement ce qu'on voit avec les solutions e-commerce ou dans d'autres domaines. Tu ouvres la plateforme, elle est API ouverte complètement vers l'API. Tu mets une couche d'intelligence artificielle, alors c'est peut-être des grands mots et il faut voir si c'est la réalité derrière. Tu optimises les bases de données pour avoir des informations en temps réel. Et du coup, en faisant des petites recherches sur Coveo, je me suis rendu compte que donc ils ont 15 ans, donc c'est pas une start-up. Et à l'époque, en 2004, ils s'appelaient Copernic. Alors, t'es pas une geek, donc tu dois pas connaître. Si ?
Non.
Thibaut, tu connaissais Copernic ?
Le projet Copernic ? Bon, bah alors expliquez, ouais. Parce que je suis
tout,
pas la
tout
seule
mon geek à l'époque. Tout mon geek à l'époque installait Copernic. Et en fait, c'est un client Windows, donc un logiciel que tu installais et qui te faisait de la recherche sur ton ordinateur. Tu vas me dire, mais Adrien, il y a déjà le moteur de recherche dans Windows. Mais à l'époque, ce n'était pas très performant. Et donc, ils avaient commencé sur le desktop, dans ton ordinateur. Tu recherches tes fichiers, tes MP3, tes DivX, etc. Donc, okay. C'était un outil qui était bien utilisé. Donc, ça fait 15 ans qu'ils existent. Ils viennent de cette spin-off. Et aujourd'hui, on va dire, dans le secteur de moteur de recherche, tu as des sociétés comme Algolia, Elastic et Lucidworks qui sont, on va dire, cette nouvelle génération De solutions. Et dernière petite chose que je voulais mentionner, ça me faisait penser également à une chose que je voyais chez Demandware, Salesforce Commerce Cloud, c'est qu'en fait, le moteur de recherche, c'était vraiment la pièce centrale de la plateforme e-commerce, parce que quand tu creuses un petit peu, et techniquement, c'était vraiment construit de cette manière-là, et je pense que ça n'a pas changé depuis, à ma connaissance, c'est toutes tes recherches, tous tes moteurs de recherche. Je te donne un exemple. Tu as ton moteur de recherche, tu tapes quelque chose, tu tapes un produit, ça va être le moteur de recherche qui va le produire. Mais même quand tu tapes dans une catégorie, ça va être, tu vas faire une recherche sur le mot-clé de la catégorie et il faut juste savoir, donne-moi tous les produits qui ont l'identifiant catégorie égale, je ne sais pas quoi, les chemises et les landing pages, les pages de catégorie, etc. Et quand tu creuses un petit peu, pareil pour les produits, je fais une recherche sur tel identifiant de produit. Et donc, tu le voyais aussi dans l'URL, tout était search égal et tu voyais le mot-clé ou le nom de la catégorie. Donc quand tu comprends qu'en fait dans un site e-commerce, le moteur de recherche ça peut être vraiment une pièce importante, tu comprends que le moteur de recherche et la personnalisation c'est très très lié parce que tu vas construire la navigation du client et la manière dont tu vas display, donc afficher les produits, tu vas appliquer des règles, est-ce que tu les classes en fonction du stock, en fonction de la marge que tu te fais, du taux de conversion, du taux de clic, du taux d'ajout au panier, etc. etc. Et donc t'as vraiment le moteur de recherche et la personnalisation qui sont des concepts qui sont très liés et tu ne le vois pas nécessairement un peu de haut, tu te dis mais c'est deux choses qui n'ont rien à voir et en fait si, c'est vraiment très imbriqué.
Alors moi je voulais vous parler de Riskyfield qui vient de lever 164 millions de dollars. Riskyfield, c'est une start-up israélienne qui a été lancée en 2013 et qui développe des solutions de prévention des fraudes sur les sites marchands. Donc concrètement, lorsque vous allez sur un site e-commerce et que vous regardez un article, vous le passez dans le panier et puis après vous voulez l'acheter. Bon, un fraudeur, il a des comportements similaires, sauf que Riskyfield, derrière, va détecter les potentiels comportements frauduleux depuis la recherche, donc on en parlait là, avec Adrien sur les moteurs de recherche sur les sites e-commerce, jusqu'au moment où l'article va passer en « payer ma commande ». Donc c'est une technologie assez innovante puisqu'elle est vraiment basée sur le comportement et donc qui dit comportement, on va parler d'intelligence artificielle. Donc c'est une société qui est quand même assez... 2013, hein, c'est pas non plus hyper récent, ça a 5 ans, 6 ans. C'est une société qui revendique plus de 420 collaborateurs partout dans le monde et qui analyse des transactions dans plus de 230 pays. Et parmi les clients, parce que je sais qu'Adrien va me poser la question, on a quand même des grands noms. On a Vestiaire Collective, on a Aldo, qui est un distributeur, enfin pas un distributeur, mais une marque et un distributeur de chaussures. Je crois que c'est brésilien d'ailleurs, Aldo. On a Macy's, Dyson, Samsung. Voilà. Et le but de cette levée de fonds, qui est quand même pas anodine, on parle de 164 millions de dollars, c'est de se développer à l'international et de renforcer la R&D. On passe au Focus Pocus qui est entièrement dédié à Zalando. Adrien, je te laisse la parole. Présente-nous Zalando.
On voulait parler de Zalando pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un acteur très important et en plus parce qu'il y a eu plusieurs actualités qui sont apparues ces derniers jours. Donc on les a rassemblées, on s'est dit que ça serait intéressant d'en parler. Avant de commencer, Thibaut, Laetitia, est-ce que vous savez d'où ça vient Zalando ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oh, je crois que tu l'as déjà dit dans un numéro du podcast. Bon, déjà, c'est allemand, mais est-ce que Zalando, c'est un mot... ça vient de l'allemand.
Est-ce que Zalando, c'est espagnol ? Je fais un pari.
Eh bien alors, bravo, c'est pas espagnol, mais c'est italien. Et c'est même, ça vient d'un dialecte du nord de l'Italie, Zalare, et ça vient faire des blagues.
D'accord.
Je trouvais que c'était bien l'image de ce qu'on faisait, donc c'était bien pour commencer
la bande de guignols que nous sommes, c'est ça ?
Et alors Zalando, pour resituer, c'est vrai qu'on les connaît, donc société allemande qui d'e-commerce, site e-commerce.
L'un des sites préférés des Allemands d'ailleurs.
Spécialisé dans la vente de chaussures. Initialement, ils sont ouverts ensuite dans le vêtement. Ils sont basés à Berlin. Ils ont été créés en 2008 par un incubateur qui est très connu en Allemagne. Quand je vivais en Allemagne, je voyais qu'il y avait énormément de marques, de startups qui avaient été incubées par Rocket Internet. Et Zalando, aujourd'hui, c'est présent dans 17 pays. Ils génèrent 6 milliards d'euros. Ils vont générer 6 milliards d'euros en 2019. Une des forces de Zalando, et c'est pour ça que même quand ils n'étaient pas présents en France, on entendait beaucoup parler d'eux, c'est la qualité du service client, mais c'est vraiment mettre le client au centre avec une approche très customer-centric, donc centré client, tu vas me traduire tout ce que je dis, hein, Laetitia, parce que je suis très mauvais sur tout ça. Donc, sur la livraison, sur la gestion des retours et sur les politiques et sur les paiements. Il y avait notamment beaucoup de choses autour du retour et la possibilité de retourner les produits après 100 jours, ce qui était vraiment une grosse différence par rapport aux autres retailers ou avec les contraintes légales. Il y avait traditionnellement, Zalando proposait de livrer et de retourner les produits de manière très simple. Ils ont commencé à inclure donc le free shipping, c'était quelque chose qui était depuis bien longtemps chez Zalando. Et en avril 2019, ils avaient commencé à expérimenter en Italie le fait de mettre des coûts de livraison pour certaines transactions qui coûtent pas très cher. D'ailleurs, tu le vois sur Amazon, pour des produits qui sont tout petits, ils vont se dire bah c'est le produit panier, je crois, ou je sais plus comment ils appellent ça, panier plus.
Faut que 25€ minimum dans ton panier pour pouvoir...
C'est 15 ou 25 chez Amazon. 25. Ouais, c'est 25.
Je connais bien, ouais. Okay. 25.
La dernière fois, on parlait avec Laetitia, on faisait le concours de celui qui a acheté le plus sur Amazon. Donc, j'étais à 99 il y a quelques semaines quand on en a discuté. Et elle me disait, ouais, moi, je suis déjà à plus de 100. Donc, c'est vraiment... on consomme trop. Tu achètes beaucoup, Thibaut, toi, sur Amazon?
Pas mal, ouais, pas mal. Globalement, ici, à peu près toute l'agence, on est des gros acheteurs d'Amazon. Faut reconnaître quand même, tu parlais de moteur de recherche. Pour le coup, Amazon, oui, c'est un moteur de recherche et il y a tellement de choses dedans que, oui, que ça devient incontournable, évidemment.
Et d'ailleurs, petite digression sur la période de Noël, c'est le moteur. Il y a une étude qui est sortie qui a montré que c'était le moteur de recherche qui passait devant Google. Et quand tu te rends compte de ça, tu dis waouh, c'est vraiment monstrueux. La technologie qu'ils ont derrière est vraiment très très forte. Donc pour revenir sur Zalando, donc ils ont commencé à mettre en place des frais de livraison pour des commandes qui étaient toutes trop petites. Je crois que c'était 25€ la limite également. Ils ont ensuite déployé ça en Irlande, Espagne et au UK. Et tu te rends compte du coup que ce qu'ils avaient commencé il y a quelques années, ce qui faisait qu'ils étaient différenciants, ils sont quand même un petit peu revenus dessus, et ça va être lié sur des news que tu vas partager tout à l'heure, Laetitia. Donc on en parle dans chaque épisode, déjà de l'empreinte carbone, de l'impact que ça peut avoir de tout mettre gratuitement et de faire en sorte que le consommateur il ne perçoit pas du tout la valeur de ce qu'il a. Et deuxième chose, sur les coûts que ça a en interne, que ça génère en interne. Et donc du coup il y a une autre news qui est arrivée il y a quelques semaines, c'est le fait que Zalando sur le retour, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui prennent le produit, qui les essayent, qui les portent. C'était un peu la technique classique, tu les portes pour le week-end et tu les renvoies. Donc ils ont essayé de contourner ça en mettant des gros tags sur les habits. Si tu enlèves ce tag ou cette étiquette, tu peux plus le retourner et tu vas pas aller te balader en soirée avec quelque chose avec un gros marqueur derrière. Donc ils ont essayé de différentes choses parce qu'ils se rendaient compte que le retour, il fallait les contrôler. Ce qui est arrivé il y a quelques jours, c'est qu'ils ont donc ils ont un programme un peu à la Prime pour Amazon. Ils ont un programme Plus, membre Plus, qui coûte 15€ par an. Ce programme Plus, il permet d'avoir livraison rapide, on retrouve le style Amazon, d'avoir un assistant personnel ou des conseils d'un personnel shopper, on va dire styliste, des offres exclusives, la possibilité de recevoir des alertes quand ton produit dans ton panier ou dans ta wishlist est en promotion, et un support client qui est plus rapide. Il y avait une autre chose qui était disponible, c'était la possibilité de choisir des créneaux de retour pour les retours. Donc c'était une fonctionnalité qui permettait, quand tu achètes sur Amazon et que tu fais partie de ces membres plus, de choisir je veux retourner entre 18h et 20h, et tu as une personne qui est un coursier qui allait venir, qui allait récupérer ton produit. Donc là c'est juste canon pour le retour, tu es super à l'aise, tu sais que tu peux acheter et tu n'as rien à faire pour le retour. Et donc ils ont enlevé cette fonctionnalité parce qu'ils se rendaient compte, alors on ne saura pas vraiment les raisons, je pense qu'il y avait un coût qui était associé, mais surtout ce qui est mis en avant, c'est que c'était pas souvent respecté. Quand tu mettais 18-19h ou 18-20h, la personne venait après 20h, du coup ça crée la frustration. Parce que tu sais ce que c'est, hein. Tu donnes quelque chose au client, il est content de l'avoir, mais si tu ne respectes pas ou si tu décales un petit peu ce que tu lui donnes, il va être, il y aura de la frustration, il sera pas content. Et j'ai fait le test en France, j'ai été surpris de voir qu'en fait, je ne suis pas sûr que ça s'applique, enfin que ça a un impact en France, parce qu'ils font déjà ça. Je connaissais pas parce que je n'achète pas sur Zalando, mais tu as la possibilité de retourner tes produits avec la poste en remettant les produits dans ta boîte aux lettres. Donc pas sûr que ça rentre dans ta boîte aux lettres, parce surtout en région parisienne, tu as des petites boîtes aux lettres. Mais c'est une possibilité, c'est une fonctionnalité qui existe déjà et qui fonctionne pour le coup en France.
Moi, je voulais juste rebondir sur tout ce qu'on vient de se dire. Ça me fait penser un peu à Asos. Alors, Asos, ça disparaît un peu des radars sur le e-commerce, mais pendant très longtemps, Asos a été un peu pionnier dans tout ce que fait actuellement Zalando, notamment sur les retours. Asos était l'un des premiers à dire « Non, ça suffit, le retour gratuit, il faut arrêter. » Et ça rejoint complètement ce que tu disais, Adrien, sur les clients qui achetaient, essayaient, renvoyaient souvent dans des états on ne pouvait pas remettre sur le marché l'article. Et Asos a décidé de... Alors, le retour est gratuit pour les clients qui sont premium. En revanche, pour tous les autres, il faut payer. Ce que tu racontais sur les boîtes aux lettres, Asos le faisait aussi. Alors, je ne consomme plus trop sur Asos, mais je crois que c'est toujours possible de remettre son colis et d'attendre qu'un livreur passe et le repique. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, Asos ne présente pas des chiffres hyper en hausse, voire même, on le disait dans un numéro du Café de l'e-commerce, Asos a dû dégraisser et supprimer des postes sur des fonctions marketing notamment. Ils ont supprimé leur magazine parce que ça coûtait cher en termes de rédaction, en termes de contenu, en termes de distribution. Donc on voit qu'effectivement, il y a des géants, des grands, comme Asos a pu l'être, qui tentent des choses, qui sont des laboratoires. Et puis, parfois, ça ne marche pas. Et là, on a Zalando aussi, qui a plutôt l'air de bien fonctionner parce que moi, tout à l'heure, je vais reparler des chiffres. Et en fait, Zalando présente une croissance assez ahurissante.
Justement, tu voulais nous donner quelques chiffres sur ce qui a été communiqué. Ouais.
Alors là, on est plus fin octobre, mais sur le mois de novembre. Tous les chiffres du troisième trimestre tombent. Les chiffres sont hyper insolents pour Zalando parce qu'ils ont enregistré plus d'un milliard de visites sur T3, soit une croissance de 34%, pour un nombre de clients actifs de 29,5 millions. Et ces clients réalisent en moyenne 4,6 commandes, ce qui représente 29,5 millions. Et l'année dernière, on était à 25,1 millions. Un petit bémol, c'est le panier moyen par commande qui est en légère baisse. Il passe de 57,7 euros à 56,6 euros. Vous me direz, 1 euro, c'est rien. Ouais, mais bon, quand on a des millions de commandes, ça commence à faire un petit peu. Toutefois, le CA trimestriel est d'1,5 milliard d'euros. Donc, une très belle année pour Zalando. Je pense que c'est un acteur qu'on va vachement suivre ici dans le podcast. Et puis, c'est vrai que toutes les semaines, en fait, on avait un truc à dire sur Zalando, qui teste des boutiques, qui teste le seconde main aussi. Et puis, on a aussi Zalando, et ça, c'est ma deuxième news, qui s'engage pour le climat, avec un objectif de devenir une plateforme de mode éco-responsable avec surtout une empreinte carbone zéro émission. Donc, comment est-ce que se traduit cet engagement ? C'est de faire en sorte que l'empreinte carbone soit de zéro émission sur les opérations, sur les sites d'exploitation, donc tout ce qui concerne la logistique, et sur l'ensemble des livraisons et des retours. C'est ce qu'Adrien évoquait un petit peu plus tôt dans le podcast. Et ça s'inscrit surtout dans la stratégie de développement durable de Zalando. Cette stratégie, ça s'appelle Do Not More, et c'est une stratégie qui est en parallèle des accords de Paris sur le climat. Donc les autres actions concrètes que Zalando a mis en place, c'est de bannir totalement le plastique à usage unique. Donc par exemple, lorsque vous achetez, j'en sais rien moi, une tunique qui est emballée dans un plastique, ce plastique vous n'allez jamais le réutiliser parce que vous allez le déchirer et puis vous allez le mettre à la poubelle. Ça, ce sera fini en fait. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est promouvoir la seconde main, c'est-à-dire de pouvoir revendre sur une des plateformes de Zalando des articles achetés sur Zalando et sur la marketplace. Voilà, donc plein de choses en test chez Zalando. Thibaut voulait réagir ?
Oui, pardon. Alors, effectivement, Zalando, moi, j'ai des trucs à dire en matière de social media parce que c'est forcément un case study passionnant. C'est sans doute un acteur majeur du e-commerce, mais en social media, ils sont loin d'être les derniers. Deux, trois petites choses à noter. Ce qu'on peut dire sur Zalando, c'est qu'ils ont une communauté de 596 000 followers sur Instagram. Donc, tu parlais tout à l'heure, je crois, de 29 millions de clients, il me semble. J'ai pas ma calculette en tête, mais ça fait quand même une partie déjà substantielle de leurs clients qu'on retrouverait donc dans leur compte Instagram. Et puis, il y a trois éléments très intéressants sur leur stratégie social media qui me semblaient importants de souligner. La première, c'est que Zalando intègre parfaitement le social commerce dans sa stratégie social media. Et là-dessus, c'est vraiment un cas d'école. Si vous allez voir Zalando sur Instagram, vous allez voir qu'ils intègrent les fameux shoppable posts, ces posts Instagram shopping. Et donc, il y a un onglet dédié où on va pouvoir retrouver une partie de leur catalogue. qui est mis en scène dans leur compte Instagram. C'est bien fait. Et puis, il y a aussi un deuxième point intéressant, c'est leur stratégie de branded hashtag, c'est-à-dire leur hashtag de marque. Ils ont un hashtag qu'on appelle hashtag Zalando Style, qu'ils appellent hashtag Zalando Style. Et là, ce que je trouve passionnant, c'est qu'il y a quand même 130 000 publications UGC, User Generated Content. Donc, c'est du contenu qui est créé par leur conso utilisant ce hashtag. C'est quand même faramineux et ça laisse à penser qu'effectivement, leur communauté est extrêmement active. Et le troisième point qui me semble passionnant, c'est qu'ils ont un programme d'ambassadeurs extrêmement poussé. En gros, ils travaillent avec des Instagrammeurs et ça fait un moment qu'ils le font. Évidemment, ces Instagrammeurs, ils font des campagnes d'influence sur Instagram, mais aussi, ils les intègrent dans leur site web. Et quand tu vas sur le site e-commerce de Zalando, tu trouves, tu l'as peut-être vu, ces petits adopter le look d'un tel. Et ben tous ces gens que tu vois en photo, et ben ce sont des Instagrammeurs avec qui qu'ils ont vraiment transformé en ambassadeurs. Et donc ils travaillent ce jeu vraiment du social commerce, c'est-à-dire évidemment d'avoir une présence e-commerce qui soit puissante, mais aussi d'avoir des relais en social media qui soient très très forts.
Et Thibaut, Zalando c'est une société allemande, bon c'est une société internationale. Ils réussissent à localiser ces campagnes et cette connexion et cet engagement avec leurs clients.
Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont un compte sur Instagram, en tout cas. Ils ont un compte Zalando qui est un compte international. Donc, c'est écrit en anglais. Et là, c'est la prise de position. Donc, le parti pris. Ce que j'ai pu voir de leurs influenceurs, il y avait des Allemands, évidemment, comme influenceurs, mais pas que. Alors, il y en avait une majorité, mais pas exclusivement. Et puis après, ce qui serait intéressant à creuser, j'imagine derrière, ils ont des campagnes de stratégie d'acquisition en social media ads qui, là, sont extrêmement ciblées par pays. Ça me nécessiterait effectivement de décortiquer tout ça.
Alors Thibaut, tu nous parles beaucoup d'Instagram. Zalando, ils sont aussi importants sur d'autres social media. Je pense à Snapchat, à Pinterest et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, 21 Button qui est vraiment le réseau social fashion par excellence. Tu saurais nous dire si Zalando exploite aussi ces réseaux sociaux-là?
Oui, alors sur Pinterest, bien sûr, ils sont là et ils sont là avec toute la force de Pinterest dans le social shopping et notamment, tu sais, cette capacité de pouvoir plugger ton catalogue e-commerce directement dans Pinterest. Et évidemment, ils le font. Et évidemment, tu as aussi ces shoppable posts du côté de Pinterest. J'avoue ne pas avoir creusé sur ce qu'ils font sur côté Snapchat ni sur 21 Buttons, mais je ne doute pas qu'ils sont proactifs sur ces plateformes.
À suivre. On passe à la rubrique Simple et Funky, les news dans un format simple et funky. Je commence avec le Black Friday. Eh bien, 145 millions d'euros de dépenses sont attendues par heure.
Des milliers de personnes se donnent rendez-vous à Madrid pour célébrer la campagne AliExpress du 11-11.
Cdiscount teste le colis connecté.
Le leader du bio en ligne, GreenWiz, vient de lancer sa propre marque, GreenWiz.
Et maintenant, on passe à notre rubrique social et on va vraiment laisser la parole à notre expert Thibaut. Thibaut, je vais commencer non pas par t'interroger, mais par balancer un sujet comme ça sur Snapchat. Voilà, les chiffres du troisième trimestre sont tombés et ils sont plutôt bons. 210 millions d'utilisateurs actifs quotidiens ont été recensés sur la période du troisième trimestre. Des résultats qui sont meilleurs que prévus, mais toutefois... On note que lorsque ces résultats ont été annoncés, il y a eu une petite baisse du titre Snapchat en bourse. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Snapchat est un réseau social qui n'est plus de niche, qui reste encore un peu fragile. Ça, c'est mon idée à moi, parce qu'on se rend compte avec Adrien que les marques mettent du temps à se mettre sur ce réseau social-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et voilà pourquoi je voulais discuter de ça avec toi. Des super chiffres, mais un petit bémol.
Est-ce que tu vois, Thibaut, par exemple, que historiquement, Snapchat gagne de plus en plus d'ampleur dans les campagnes? Et deux, est-ce que tu promets un avenir radieux ou ça va être challengeant parce que les compétiteurs aussi sont très forts et sont de plus en plus présents?
Alors Snapchat, c'est vraiment le pionnier incompris, hein, parce que c'est quand même la plateforme qui a inventé quasiment un nouvel usage, en tout cas qui en a été l'instigateur avec ce format story, ce format 9/16e. Hein. On parle beaucoup d'Instagram aujourd'hui, mais c'est vraiment Snapchat qui a lancé ça. Ils ont été aussi instigateurs de ces fameux filtres en réalité augmentée. Donc vraiment, ils sont toujours ils ont toujours un cran d'avance. Parfois, peut-être, ils sont trop en avance, hein. C'est peut-être ça le bémol sur Snapchat, et on le sait, il y a quelques années de ça en arrière, quand ils ont modifié leur UX, hein, leur expérience utilisateur et la manière dont fonctionne leur application, ils ont clairement créé un schisme, et puis surtout ils sont enfoncés dans une audience très très niche. Alors tu disais c'est plus de la niche Snapchat. Effectivement, c'est peut-être ça le problème de Snapchat aujourd'hui, c'est qu'ils sont un peu entre deux eaux. Ils sont à la fois une plateforme qui est pas facile à appréhender pour tout un chacun, parce qu'elle a un fonctionnement un petit peu atypique, et puis à côté c'est devenu une plateforme qui est peut-être trop mainstream pour son corps d'audience initiale, qui était vraiment les jeunes générations qui maintenant vont peut-être davantage aller pousser du côté de TikTok. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour Snapchat. Moi, j'ai le pressentiment que l'avenir de Snapchat, évidemment, ils ont des bons chiffres en publicitaire, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose d'assez neuf, hein, chez eux, et qu'ils commencent simplement maintenant à vraiment ouvrir les vannes sur les différents formats de publicitaire. Donc, forcément, ça crée du revenu. Je pense que l'avenir de Snapchat, il est peut-être ailleurs, et il est peut-être dans ses filtres en réalité augmentée. Il est peut-être dans son innovation, en fait. Peut-être moins dans sa plateforme social media. Je pense pas, je prédis pas, comme on l'entend souvent, que Snapchat va mourir. Je pense pas que ça sera le cas. Je pense qu'il y aura toujours une jolie audience sur Snapchat. Il y a toujours des gens qui seront passionnés par Snapchat. Mais c'est vrai qu'ils sont très, très chahutés sur ce qui était leur spécificité, c'est-à-dire la messagerie instantanée, le format story. Et tout ça, aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont à la bagarre avec eux.
Aujourd'hui, donc moi, j'utilise pas Snapchat, mais je vois le fonctionnement. Qu'est-ce qui reste à Snapchat d'unique par rapport à Instagram, par exemple ?
Eh ben, il leur reste des fonctionnalités, et notamment en publicitaire, que tu vas pouvoir trouver que chez eux. Ils ont des trucs très cool où tu vas pouvoir créer des filtres réalité augmentée, des espèces de stickers en réalité augmentée que tu vas pouvoir acheter sur une zone géographique très précise. Ça, c'est assez intéressant, et on a vu notamment des campagnes publicitaires qui ont été faites pour le Stade français, où l'agence avait acheté le périmètre géographique du stade. Donc, tu es quand même dans de la géologue très très précise, et quand tu utilisais Snapchat dans le périmètre du stade, tu pouvais utiliser ces filtres sponsorisés. Donc, ils ont toujours un cran d'avance sur l'innov, mais le problème, c'est que derrière, à côté, plutôt, tu as le groupe Facebook qui est extrêmement puissant, et dès qu'il y a une innov qui sort sur Snapchat, eh ben, tu la retrouves, on va dire, 6 mois plus tard sur Instagram.
L'audience de Snapchat, ce sont les mêmes qu'Instagram, c'est-à-dire qu'il y en a plus sur Instagram, mais ceux qui utilisent Snapchat, ils ont aussi un compte Instagram et ils postent les mêmes choses, ou c'est des audiences qui sont différentes ?
Eh ben, tu vois, ce qu'on voit de plus en plus, un comportement d'usage qu'on voit de plus en plus, c'est qu'effectivement, ce sont des audiences qui sont un peu mixtes. Je pense que tu as une base de fans de Snapchat qui ne démordent pas de Snapchat, sauf que le fait est qu'en social media, tu vas là où sont tes potes. Hein, tu n'utilises pas l'application que pour toi. Sauf ce qu'on est en train de voir, et ça c'est intéressant en termes d'usage, c'est que Snapchat devient une plateforme de création de contenu, peut-être moins une plateforme social media. En gros, tu vas avoir des gens qui vont utiliser Snapchat, les filtres Snapchat, pour créer du contenu vidéo amusant, sympa, et ensuite le repartager sur TikTok, le repartager sur Instagram. Donc je pense que peut-être que l'avenir de Snapchat, il se situe davantage dans sa capacité à être un outil de création de contenu que dans vraiment le côté social media de son application.
Et du coup, pour les marques, c'est comment tu vois cet avenir ? Parce que là, c'est point de vue utilisateur-consommateur. Je ne devrais pas dire consommateur, mais on va dire utilisateur. Et point de vue marque, comment elles peuvent prendre ça, ou comment elles peuvent voir surfer sur cet avenir ?
Je vais être assez honnête. Aujourd'hui, les marques Snapchat, c'est pas dans leur priorité. Les marques, elles sont déjà un peu à la peine hein, pour rattraper le retard qu'elles avaient pris sur Instagram. Donc là, aujourd'hui, c'est là où elles mettent le gros de leur budget. Elles se retrouvent aujourd'hui confrontées à un nouvel arrivant qui est TikTok, qui est passionnant parce que il permet d'aller toucher une jeune génération. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que Snapchat, elle est un peu l'oubliée, en train de se faire clairement oublier par les marques. Je pense qu'il y a des marques qui ont investi à un moment donné dans des stratégies de contenu sur Snapchat et maintenant qu'elles y sont, elles sont légitimes à y être, elles vont pas en démordre. Par contre, c'est vrai que pour les nouveaux annonceurs, c'est plus compliqué aujourd'hui à appréhender Snapchat et moi, je vois pas un avenir ultra radieux de ce côté-là, mais j'espère me tromper.
Ouais, donc en résumé, on est sur une plateforme social media en ronflement, hein, qui aurait un bel avenir avec de l'intelligence artificielle et tout ce que tu disais sur les chiffres, mais c'est sans compter sur ces nouveaux réseaux sociaux, les réseaux sociaux de niche. Et là, c'est superbe transition pour le sujet dont je voulais parler, les réseaux sociaux de niche. Moi, j'utilise par exemple 21 Button, qui est une application, un réseau social où je peux retrouver les vêtements, tous les outfits des Instagrammeuses que j'aime bien, des stars que j'aime bien, via cette application. Donc, je suis l'Instagrammeuse et puis elle fait vraiment tout le listing de son dressing. Et puis parfois, ça me renvoie directement sur le lien, donc j'en sais rien moi, un top Zara, je clique dessus et ça me renvoie directement sur le bon article, sur le site Zara. Ça, c'est mon usage personnel parce que ça m'intéresse, voilà. Mais moi, je trouve que c'est génial et j'aurais plus tendance à aller sur 21 Button qu'effectivement sur Snapchat. Puis en faisant mes recherches, effectivement, sur d'autres réseaux sociaux de niche, je tombe sur TikTok. Et on l'a déjà évoqué ici, mais peut-être pas avec toute ton expertise très affinée, Thibaut. TikTok, qui reste un réseau social en pleine ascension, mais sur une audience très jeune. Voilà. Et puis, le troisième réseau social que j'ai noté, c'est Discord. Et j'y suis allée parce que j'aime bien tester ce dont je parle. J'ai rien compris parce que là, c'est un réseau social dédié aux gamers, quoi. Je ne comprends rien au code parce que vraiment, lorsqu'on rentre dans une plateforme, sur un réseau social de niche, il y a des codes à adopter. Alors, autant sur 21 Button, je suis hyper à l'aise. TikTok, ça va. Mais alors, Discord, j'y comprends rien. Et donc, ma petite analyse, voilà, à ma petite échelle, c'est qu'effectivement, il faut avoir les codes. On ne peut pas rentrer comme ça. Et ce qui veut dire que bah, l'éditeur de cette plateforme doit connaître parfaitement son persona, donc la personne à qui elle s'adresse. Et là où Snapchat n'arrivait pas trop, du coup, puisque Snapchat, on ne sait plus très bien à qui il s'adresse. Thibaut, toi, ton ressenti sur ces réseaux sociaux de niche. Et puis après, Adrien, peut-être que je t'interrogerai sur comment on peut faire du e-commerce et du social commerce sur ces plateformes.
Alors, effectivement, on voit, c'est vrai qu'on parle toujours de Instagram, Facebook, Twitter, hein, c'est les trois gros piliers. Snapchat aussi, hein, c'est dans notre vocable commun depuis un petit moment. Mais on a vu tous ces nouveaux arrivants. Il y en a qui sont plus historiques que d'autres, hein, d'ailleurs, dans ces réseaux sociaux de niche. Ce qu'il y a d'intéressant, effectivement, il y aura toujours des plateformes mainstream et des plateformes de niche. Normal, parce que toi, en tant qu'audience, eh ben, parfois, c'est chouette d'être là où les autres sont pas. Et surtout, c'est chouette d'être là où tes parents sont pas. Si on prend le cas de TikTok, c'est clairement le cas. Alors que Facebook petit à petit Instagram sont en train de vieillir, eh ben, pour les jeunes générations, c'est posé la question de où on pouvait se retrouver tranquille entre nous. Ça a été vraiment au début l'angle de Snapchat, hein. En gros, c'était de dire ce qui se passe derrière ta porte de chambre d'enfant, ça se passe dans Snapchat et tes parents n'y ont pas accès parce qu'ils ne sont pas sur Snapchat. Et maintenant, ça se passe avec TikTok. Voilà. Ce qui me semble intéressant quand on est un annonceur, hein, quand on a une marque, c'est effectivement déjà de les connaître, hein, de les identifier, ces plateformes de niche. T'en as cité quelques-unes. Discord, on peut parler aussi de Twitch, hein, sur un public gamers, qui est vraiment une plateforme de social streaming, hein, ce qu'on pourrait dire. Évidemment, TikTok, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Là, ce qui me semble intéressant quand on est annonceur, c'est peut-être de se poser la question de sa légitimité à y aller. Et effectivement, il y a deux manières d'y aller. Soit on y va par un angle qui est l'angle traditionnellement travaillé jusqu'à présent, qui est celui de la création de contenu, hein, du brand content, c'est-à-dire est-ce que je peux créer du contenu, être légitime sur ces plateformes-là. C'est pas si facile que ça, hein, sur des plateformes comme qui sont très codées, comme TikTok ou Twitch. Puis un autre angle qui est peut-être celui qui commence à prendre le lead, qui est celui de l'influence marketing, et se dire en tant qu'annonceur, le meilleur moyen pour moi pour intégrer ces plateformes, aller sur ces plateformes et chercher la légitimité, eh ben, c'est de passer par des influenceurs. J'ai un exemple à te donner. C'est un exemple qui est, c'est un cas pratique avec la WWF. C'est une campagne qui a été montée par l'agence We Are Social. Et en fait, eux, ils sont allés, ils ont amené la WWF sur Twitch. Et ça, c'est marrant parce que toute seule, on voit pas trop comment elle aurait pu y aller, WWF sur Twitch. Pour autant, il y a une audience et ils avaient des choses à leur dire là-bas. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté un défi qui s'appelle le No Build Challenge, un défi à l'attention des streamers. Et dans Fortnite, le principe, c'est que tu pouvais jouer dans Fortnite. Le but du jeu était de jouer dans Fortnite sans exploiter les ressources naturelles qui sont prévues dans la plateforme. Donc, tu n'avais pas le droit
c'est
de casser
génial.
Un arbre, etc. etc.
Bah, c'est compliqué pour les gamers, là, de ne pas tout détruire.
Pas si simple, mais c'était un bon moyen pour la WWF de parler ouais. d'écologie dans une plateforme où ce n'est pas le sujet de départ. Et là, ils l'ont fait en utilisant une communauté de streamers, hein, des influenceurs. Ils sont passés par... une communauté qui s'appelle WebTV Solari, qui sont vraiment des purs gamers et qui ont porté ce projet-là comme des influenceurs marketing. Résultat, eh ben, un paquet de notoriété, on parle de millions de vues, et puis aussi des donations, et ça, c'est la bonne surprise. La WWF nous annonce quand même plusieurs millions de dollars de donations issues de cette campagne, donc c'est assez fou.
Super. Bon, Thibaut, je t'invite maintenant sur le réseau social Pinterest, qui vient de dépasser le cap des 300 millions d'utilisateurs par mois au troisième trimestre. On ne fait que parler du troisième trimestre, normal. Thibaut, qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est énorme, c'est pas énorme. Pinterest, on a souvent dit qu'ils avaient eu du mal à décoller. Maintenant, on commence à vanter les mérites. Tu lisais tout à l'heure des marques qui pouvaient uploader leur catalogue entier sur Pinterest. Avec Adrien, on a rencontré Pinterest et vraiment leur stratégie, pour nous, d'un aspect e-commerce, nous semblait... génial, mais ce que nous disait Pinterest, c'est qu'il y avait quand même tout un marché à éduquer.
Ouais, ben pour moi, Pinterest, c'est l'oublié des marques et c'est un mystère parce que je trouve que cette plateforme, elle est exceptionnelle et elle explose. Ils sont extrêmement actifs en ce moment, Pinterest. Ils ont beaucoup, beaucoup de releases, hein, de nouveautés qui arrivent. Et puis, surtout, ils veulent prendre un lead. Ils veulent prendre le lead du social shopping. Ils veulent dire, nous, on est la plateforme du shopping. C'est là que ça se passe, c'est chez nous. Ce qui est génial avec Pinterest, c'est que c'est le réseau social du projet. En gros, tu vas sur Pinterest quand tu as un projet, refaire ton intérieur, repenser ta garde-robe. Et c'est aussi le réseau social le plus proche de la conversion. Et ça, forcément, pour les experts du e-commerce que vous êtes, j'imagine que ça vous met la puce à l'oreille. Et d'ailleurs, chez Pinterest, on met les bouchées doubles sur ces sujets. Allez, quelques petites releases qu'ils ont eues dernièrement. J'en ai parlé tout à l'heure. Les épingles produits, les pins dynamiques qui incorporent toutes les informations issues de ton site e-commerce, le prix, la description, la taille, etc. Donc maintenant, tu retrouves tout ça au cœur de Pinterest. Il y a des nouvelles fonctionnalités catalogue, on l'a dit, tu peux exporter l'intégralité de ton catalogue et plugger Pinterest pour que cette partie catalogue de ton Pinterest se mette à jour tout seul sur la base de ton site internet. C'est quand même assez génial. Moi, je pense que 2020 va être l'année de Pinterest. Je les trouve très, très bons en ce moment.
Enfin.
Thibaut, question pour toi, pour que les marques commencent à les utilisent plus, soit elles vont directement aller basculer, ou soit Pinterest va adresser les agences qui vont conseiller aux marques. Est-ce que tu es au courant ou tu sais ce que fait Pinterest avec l'écosystème d'agences?
Alors nous, je dois dire qu'on est beaucoup mis à profit, à contribution par Pinterest, qui nous informe de beaucoup, beaucoup de leurs choses. Évidemment, on a notre podcast qui fait qu'on a une proximité forcément avec les plateformes, mais on sent aussi qu'ils sont en train de travailler, je dirais, leur hype, leur coolitude chez Pinterest, et ils arrivent avec deux angles, évidemment celui des fonctionnalités, ça c'est intéressant mais c'est peut-être un peu tech, et puis aussi celui de la data, de l'insight. En gros, ils ont quand même une force, Pinterest, c'est qu'ils ont une quantité de data mise à distribution qui sont des data qui viennent nourrir le marketing des marques. C'est très 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 intéressant. Ce que je peux à peu près en deux mots sur Pinterest aujourd'hui, quoi.
Et quand tu conseilles des marques ou ce que tu vois sur le marché, c'est Instagram, c'est évident, Facebook, Et derrière, tu mettrais Pinterest ou après, tu vas me dire, ça dépend des marques, etc. Mais on va dire, il y a toujours les mêmes usual suspects. Tu les classerais comment ?
Alors, Facebook et Instagram sont évidemment dans le point de, sont un peu le point de départ. Hein. Facebook, alors n'oublions pas Facebook, hein, ça reste vraiment une plateforme. La plateforme, hein, c'est là que le gros des audiences sont. C'est là que les grosses possibilités de ciblage publicitaire aussi résident. Donc, Facebook, ça reste extrêmement puissant et faire le deuil de Facebook me semble compliqué. Instagram, je pense qu'il y a une énergie à mettre pour les marques additionnelles pour ne pas rater ce train-là parce que le train, il est déjà bien parti. Et puis après, il faut commencer à ouvrir les yeux sur les opportunités. Et moi, Pinterest, aujourd'hui, c'en est une super d'opportunité, je pense. Elle me semble très intéressant à aller saisir dès aujourd'hui. Ce qu'il y a, il y a une force quand même sur Pinterest qu'il ne faut pas oublier, c'est que le contenu est quasiment evergreen. C'est-à-dire que tu publies du contenu sur Pinterest, il a une durée de vie de 3, 4, 6 mois, ce qui est exceptionnel quand tu sais, côté marque, le coût inhérent à une présence social media dans la production de contenu. Hein, si je suis présent de façon active sur Instagram aujourd'hui, nous, les recos qu'on fait, c'est de publier, allez, on va dire, à minima 4 fois par semaine en post, et puis sans doute d'avoir une présence story presque quotidienne. Aujourd'hui, ça représente un coût somptueux pour une marque, là où dans Pinterest, tu peux peut-être avoir des stratégies qui sont plus malines et qui nécessitent moins de coûts parce que les contenus ont une durée de vie plus longue.
C'est quoi, par curiosité, les indicateurs de succès pour les retailers, pour les marques qui ont des sites marchands, les indicateurs qu'ils vont suivre sur un Pinterest? Ça va être l'engagement de likes, de partage, ou ça va être jusqu'à combien de personnes sont venues sur mon site et ensuite combien ont acheté?
Ah, moi, je pense que sur Pinterest, tu dois piloter quasiment à la conversion, en tout cas au lead entrant sur ton site. C'est ce que permet cette plateforme et c'est ce qui doit être ton KPI principal, à la très grosse différence d'un Instagram où là, tu vas aller chercher effectivement plutôt l'engagement, plutôt le conversationnel et donc plutôt avec un angle qui va être celui de créer du lien, hein, d'être dans la construction lente de la préférence de marque, là où Pinterest te permet d'avoir une approche avec des KPI peut-être plus agressifs, hein, plus directement liés à ton business.
Super.
Ok.
Bon, ben merci Thibaut. On passe à notre rubrique le Café du Cœur. Adrien souhaite nous parler de Kim.
J'ai reçu un petit email de Kim qui est en recherche d'un poste de product manager. Alors, je lui ai demandé de me faire un petit texte que je vais vous lire. Suite à 5 ans d'expérience dans des fonctions commerciales, dont 2 ans en grande conso et 3 ans dans une startup en hypercroissance, j'ai une grande culture business et connais bien les méthodes agiles. Mon intérêt pour la fonction de product owner a grandi chez JobTeaser, étant le relais produit pendant 1 an et demi pour les sales. Remontée d'informations, participation aux réunions et aux décisions produits, développement d'un produit particulier à JT. Cockpit. J'ai donc fait la formation Le Wagon afin de développer des compétences techniques et de pouvoir prétendre à ce type de poste. J'ai par ailleurs suivi une formation en ligne de Product Management sur Udemy. Donc si vous souhaitez contacter Kim, allez-y, qui est en recherche pour un poste de Product Manager. Vous aurez les liens de son LinkedIn dans les notes de l'émission sur notre site internet et puis vous pouvez nous contacter également et on vous mettra en relation.
Bon courage Kim. Et voilà, le 14e épisode du Café de l'e-commerce se termine. Thibaut, vraiment, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Moi, j'ai adoré t'écouter et j'espère que nous referons un épisode ensemble parce que les réseaux sociaux, il y a tellement de choses à dire et Adrien et moi, on n'est pas au taquet du taquet.
Alors, Laetitia, la dernière fois, elle m'a dit, Adrien, il faut qu'on prenne le budget podcast pour aller à Lyon et enregistrer ensemble. J'ai dit, mais quel budget podcast? On est à zéro. Bon, donc quand tu viendras à Paris ou quand nous, on sera à Lyon, on pourra enregistrer ensemble. Peut-être que tu peux nous donner des informations, on ne mettra pas écrit, mais comment te suivre, c'est quoi les meilleures manières de te contacter?
Ouais, merci à vous, c'était un plaisir de discuter e-commerce ce matin. Alors, si vous voulez nous suivre, eh ben, venez écouter déjà le Super Daily, c'est tous les matins. Le Super Daily, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de podcast qui existent, et puis aussi sur lesuperdaily.com. Et puis après, pour suivre Super Natif, eh ben, on est à peu près partout. Hein. Forcément, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur Twitter, on est sur Pinterest. @supernatif, SUPERNATIFS. Merci à tous.
Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment.
Laetitia, un autre épisode qui se déroule sans accroc. Cette fois, t'as la référence.
Oui. La l'assurance tout risque. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafédecommerce.fr et profitez-en pour vous inscrire à notre newsletter.
Si vous avez des sujets que vous souhaitez que nous abordions ou si vous souhaitez participer à nos interviews, nous vous invitons à nous contacter info@lecafédecommerce.fr ou à remplir notre formulaire disponible sur le site du Café de l'e-commerce ou également à cliquer sur le lien qui se trouve dans les notes de l'émission. Vous avez un petit lien, c'est anonyme, vous n'en rentrez aucune information, juste le texte que vous voulez et vous l'envoyez.
On collecte rien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire avec 5 étoiles. Partagez cet épisode autour de vous.
Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast et également sur YouTube. Encore une fois, merci beaucoup Thibaut, merci Laetitia, merci. Et à très bientôt.
À bientôt. Ciao.